Chapitre 53. Saga pousse sa moto jusqu'à 190 km à l'heure sur la route départementale 279 à la hauteur de Marielle. La cime des arbres à feuilles caduques et les toits pointus du quartier résidentiel s'élèvent au-dessus du mur anti-bruit. Elle ne comprend pas le raisonnement de Manvir et de Greta, mais elle ne peut pas arrêter d'enquêter sur l'affaire simplement parce qu'ils l'ont suspendue. Elle doit agir même si elle se trouve du mauvais côté de la loi. Et qu'importe si elle est seule désormais, les autres sont trop lents. Peu après avoir reçu l'image de la nouvelle figurine, Juna lui a envoyé la photo des emballages. Lorsqu'elle a vu la sirène, elle a aussitôt compris où Stéphane serait tué. Elle avait surpris ses conversations avec d'autres acheteurs de sexe sur un forum et n'avait pas eu besoin d'essayer d'interpréter l'image du tube tressé. Saga a pris son arme dans l'armoire à fusil, a attrapé son gilet pare-balles et son casque, a enfilé ses baskets et a dévalé les escaliers. Après Hurstvik, elle tourne sur la E18 et prend la sortie 157. Puis elle suit le viaduc incurvé au-dessus de l'autoroute et continue tout droit jusqu'à un rond-point avec du gazon jauni au milieu. Deux filles blondes sont assises sur un banc à un arrêt de bus, occupées à regarder leur smartphone. Saga voit que Juna essaie à nouveau de l'appeler depuis la ligne fixe de la police. Elle reprend de la vitesse alors qu'elle se trouve sur une route bordée de grands marronniers et de gratte-ciel gris et lugubre. Des feuilles et des saletés tourbillonnent derrière elle. Elle tourne, parcourt quelques centaines de mètres à contresens et s'arrête devant la Lexus argentée de Stéphane. Après avoir enlevé son casque, elle s'empresse d'enfiler son gilet pare-balles et de serrer les sangles. Le sol devant le petit escalier menant à la salle du sous-sol semble avoir été balayé et Saga comprend qu'elle est arrivée trop tard. La serrure de la porte en acier est cassée. Des bouts de métal gisent sur le palier. Elle pose son doigt sur la détente, pousse la porte et pointe rapidement son arme sur un couloir étroit. Un balai, dont les franges sont imbibées de sang, gît dans une flaque sur le sol. Le tapis en PVC est encore humide. Un pot contenant une fleur en tissu a été renversé et des billes d'argile ont roulé sur le sol. L'endroit sent la bougie parfumée et le savon. Saga enjambe le balai, avance silencieusement dans le couloir, tout en restant collée au mur de droite. Elle baisse son arme un instant afin de reposer son épaule. Une table bloque l'entrée d'une petite salle d'attente. Tout est plongé dans le silence. Elle lève à nouveau son arme et parcourt la petite pièce du regard. Elle voit deux fauteuils et deux portes. Il n'y a personne. Un bol en verre contenant des bougies parfumées s'est brisé sur le sol. Une photo encadrée de Beyoncé, en déesse africaine, pend de travers sur le mur. Saga sursaute lorsqu'un bruit de canalisation traverse soudain le plafond. Le sang essuyé à la hâte forme une épaisse traînée qui mène dans la première pièce. La porte est entrouverte et le plafonnier est allumé. Saga pointe son arme sur le chambranle, tend l'oreille et s'avance prudemment. Une odeur de poudre brûlée se mêle à celle du sang frais et des excréments. Avec précaution, elle pousse la porte avec le canon de son arme. Deux femmes sans vie sont allongées dans un lit ensanglanté. L'une est complètement nue et allongée sur le ventre. L'autre ne porte qu'un soutien-gorge rouge et repose sur le dos, les cuisses écartées. Saga franchit le seuil, balaie la pièce avec son pistolet, sécurise les angles morts et s'approche du lit. Stéphane n'est pas là. Il y a du sang partout. Mara n'a pas passé le balai que pour effacer ses propres empreintes. Des vêtements gisent dans la poussière sous le lit. Un gargouillis retentit dans la salle d'attente. Saga fait brusquement pivoter son arme, met un genou à terre et son pied cogne contre la plinthe. Ce sont de nouveau les canalisations. Le bruit continue pendant un moment, puis s'arrête. Elle se lève, s'approche des femmes et prend leur pouls. Elle voit le matériel hospitalier dans la valise et comprend que Stéphane les a anesthésiées. Une fois, il le lui a proposé, mais face à sa réaction, il a laissé tomber. Alors que Saga place doucement les femmes en position latérale, elle remarque qu'elles sont en train de se réveiller. Une douille blanche tombe du lit et roule sur le sol. L'une d'entre elles respire bruyamment. Elle écarte les tresses de son visage et tente de relever la tête. « Il est parti !» dit Saga. « Restez couché et reposez-vous un peu. »«
Qu'est-ce qui se passe ?»
murmure-t-elle. « Vous avez été drogué et agressé sexuellement. J'aimerais appeler une ambulance. »
« Non, pas d'ambulance, s'il vous plaît. »
répond rapidement la femme.
« Je pense que ce serait bien. Pas d'ambulance !»
répète la femme. « Calmez-vous, j'ai entendu. Mais il vaut mieux que quelqu'un vous ausculte. Vous comprenez ce que je dis ?» demande Saga en griffonnant rapidement sur un bout de papier le numéro d'un centre d'aide d'urgence pour les travailleuses du sexe.
« Je me sens mal. »
marmonne l'autre femme.
« Ça va passer. Restez allongée, buvez un peu d'eau. »
la rassure Saga.
« Merde !»
murmure la première.
« Appelez ce centre !» dit Saga en lui tendant le papier.
« Ok. Ils pourront vraiment vous aider. Ils ont un devoir de confidentialité et sont de votre côté. Ça ne coûte rien. Vous pourrez rester anonyme. Vous comprenez ?»«
Oui. Appelez-les.
On va le faire.
Je veux pas vous presser. C'est pas encore la panique. » Mais je pense que la police sera bientôt là, alors vous devriez peut-être prendre vos affaires et vous mettre à l'écart.
D'accord,
merci.
Vous pouvez vous reposer pendant encore 5 minutes. Saga recule et regarde les traces de sang sur le sol, les éclaboussures sur le lit et le mur.
Stéphane, probablement au milieu de ses sévices sexuels, a été touché dans le dos.
La balle est restée fichée dans son corps. Il est tombé au sol et a tenté de ramper, tandis que Mara était en train de tirer son câble à travers le salon. Du sang et des matières fécales se sont écoulées tandis qu'il avançait dans la pièce. Il semble s'être débattu et avoir essayé de s'accrocher à la table, mais il était trop faible. Saga observe ses propres empreintes de pas dans le sang visqueux et pense qu'elle doit les nettoyer avant de partir.
« Y a quelqu'un ?»
appelle une voix d'homme depuis la salle d'attente.
« Habillez-vous !»
dit Saga d'une voix calme aux deux femmes. Elle range son arme et entre dans la salle d'attente au moment où un homme d'une 60aine d'années apparaît dans le couloir.